Comme annoncé, le débat politique d'aujourd'hui porte sur le démarrage de la campagne référendaire. Ce 15 juillet, dans toute la République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a pris un décret le 30 juin dernier convoquant le corps électoral pour le changement de la Constitution. Le référendum se tiendra le 30 juillet, c'est-à-dire à la fin de ce mois. Cependant, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution promet tout mettre en œuvre pour faire échouer ce projet. C'est ainsi qu'il a organisé hier vendredi à Bangui une marche pacifique pour dénoncer ce qu'il qualifie de la volonté du chef de l'État de briguer des mandats supplémentaires contrairement à la constitution actuelle. Si la campagne référendaire est lancée officiellement aujourd'hui, l'opposition démocratique regroupée au sein du BRDC ne va pas battre campagne, et même si une partie de cette opposition dénommée UFDO est acquise pour le oui en faveur du projet de la nouvelle constitution centrafricaine, selon l'avis des observateurs sociaux, quelle qu'en soit l'issue de ce scrutin, le pouvoir va faire un passage en force. Et pour plus d'informations, décryptage et analyse sur les tenants et les aboutissants de cette volonté des partisans du gouvernement de vouloir changer la constitution, en quoi ce projet de la nouvelle constitution va provoquer un changement dans le pays, certains dispositifs excluent les binationaux de la course à la présidentielle, le président Faustin Archange Touadéra attend-il empêcher ses adversaires politiques, comme disent les opposants, la crainte de l'opposition est-elle fondée en cette période du bouleversement de la géopolitique? Pour éplucher ces interrogations principales, nous recevons la présidente de la plateforme des femmes de l'opposition démocratique, Madame Nathalie Constance Gounebana, enseignante-chercheuse en géographie à l'Université de Bangui et ancienne ministre des Eaux et Forêts à l'époque de feu Ange Félix Patassé. Madame, bonjour.
Bonjour, et je voudrais dire que j'étais aussi ministre du tourisme parce que je me suis fait épingler par mes nombreux enfants qui sont au département du tourisme.
Merci Eva Ressingamana, bonjour.
Bonjour Armando, bonjour à tous les Centrafricains qui nous suivent en ce moment, et je remercie Ndekeluka pour cette opportunité afin d'évoquer la question de la constitution.
Directeur national de campagne référendaire, président du Parlement de la CEMAC, premier vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole du parti au pouvoir MCU, Armando Nguindi, c'est moi. Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Nous sommes dans le débat référendaire, comme cela a été dit. Je vous donne la parole, Monsieur Varsingamana, de saluer évidemment Madame Constance Gounebana, puisque nous sommes dans un exercice démocratique.
Je remercie une fois de plus Ndekeluka. Je salue la présence sur ce plateau de Madame la ministre Gounebana. Je salue tous les Centrafricains qui nous suivent en ce moment, et je pense que le moment est venu d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, le processus du référendum constitutionnel est irréversible. Et je pense pour ma part que la campagne qui démarre aujourd'hui va aboutir normalement, et nous allons donner la possibilité, du moins le peuple centrafricain aura la possibilité d'aller s'exprimer à travers les urnes le 30 juillet qui vient. Donc pour moi, c'est l'exercice démocratique, la meilleure manière, la manière par excellence de pouvoir consulter le peuple, c'est le référendum. Et je pense que tous ceux qui se disent des politiques doivent saisir cette occasion. Maintenant, si d'aucuns pensent qu'il faut boycotter, etc., c'est leur volonté, c'est leur opinion, nous la respectons. Mais je pense que le peuple centrafricain n'est plus dupe. Cet appel au boycott n'aura pas son sens et n'aboutira jamais. Et je pense que le peuple centrafricain se mobilise en ce moment. Il y a un fort engouement, et ça va se démontrer aujourd'hui à travers le grand meeting que nous tiendrons sur le stade Kossi de Begoua.
Voilà, Madame Nathalie Gounebana, aujourd'hui, vous avez cette occasion, comme M. Evariste Gamana, pour saluer aussi vos partisans, saluer M. Evariste en face de vous, puisqu'on est dans un exercice démocratique.
Eh bien, je salue l'honorable président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est également directeur national de campagne. Je suis très honorée de partager ces moments avec lui sur ce plateau. Et je voudrais tout d'abord dire que c'est une personnalité que je dirais pas que j'admire, mais que j'apprécie. J'apprécie son courage, j'apprécie vraiment son dévouement, C'est une personne qui est comme un guerrier, qui agit comme un guerrier, qui n'a pas de limites, qui fonce. Et je pense que ça pouvait être tout bénéfique pour la République centrafricaine. Sauf que mon seul point de désaccord avec lui, c'est que toute cette énergie qu'il dépense, eh bien, il le fait pas dans l'intérêt du peuple, mais il le fait vraiment dans l'intérêt d'un clan, dans l'intérêt d'un groupuscule, dans l'intérêt du président de la République, et c'est vraiment ce qui est dommage. Donc moi, je salue le peuple de Centrafrique, je salue toutes les femmes, je salue la jeunesse, et c'est pour dire que nous, aujourd'hui, qui disons non à ce référendum, qui disons non à cette nouvelle constitution, nous sommes aussi des Centrafricains, et quand vous voyez les leaders de l'opposition aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont des milliers de Centrafricains derrière eux, et il faudrait qu'il y ait un minimum de respect par rapport à la voix de ces Centrafricains-là qui sont portés par les leaders de l'opposition démocratique et qui sont portés aussi par ma voix même. Donc je salue en tout cas le peuple centrafricain.
Rentrons dans le vif de notre sujet. Malgré l'interdiction du gouvernement, le BRDC, votre mouvement, madame, a bravé la peur et a défié, selon les termes de vos leaders, les autorités. Il a finalement organisé hier, vendredi, sa marche pacifique pour expliquer, selon ses propres termes, le danger que représente ce projet de la nouvelle constitution. Peut-on dire que votre action d'hier est une réussite?
Avant de rentrer dans la réponse à votre question, je voudrais d'abord dire que j'ai vu que le directeur national de campagne a mis en place une cellule de prière d'intercession pour apporter un appui à la direction nationale de campagne. Donc, selon le passé de l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, son passé de séminariste, je pense que ça va aussi un peu dans ce sens. Voilà, un prêtre, ça va aussi dans ce sens. Mais moi, je voudrais poser la question aujourd'hui de savoir comment il peut accepter, la violation du serment du président de la République qui avait dit solennellement, qui avait juré solennellement devant le peuple, devant le monde et devant Dieu, qu'il ne modifiera pas la Constitution. Comment il peut accepter ça en tant qu'homme de Dieu, accepter cette violation du serment du président de la République et accepter ce parjure? Donc, pour moi, mettre cette cellule d'intercession en place, ça n'a pas son sens. Ça n'a pas son sens parce qu'il y a déjà une rupture avec Dieu, il y a déjà un mensonge avec Dieu. Je ne sais pas si ça a pu être rattrapé. Nous sommes aussi peuple de Dieu. Je ne sais pas si ça a été rattrapé. Mais en tout cas, pour moi, je crois que cette prière n'aboutira pas parce que vous êtes en train de défendre un mauvais plan. Un mauvais plan contre le peuple de Dieu, contre le peuple de Centrafrique. Donc, toutes ces intercessions, ça marchera pas. Parce que je me dis quelque part que, à vouloir, se soustraire du joug de la France, eh ben, vous êtes en train de nous démontrer que par n'importe quel moyen, aujourd'hui, vous êtes capable de vendre votre âme au diable. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Mais on reviendra tout à l'heure dans les détails. Donc, ça sert à rien de nous embrouiller. Laissez Dieu vraiment tranquille là où il est. Il faut arrêter de nous embrouiller vraiment avec ces histoires d'intercession parce que les sujets sont là et il faudrait pas dévier.
Vous voulez bien revenir sur ma question tout à l'heure avec... Oui. Le meeting, la marche pacifique organisée par votre organisation, est-ce que c'est une réussite selon vous hier?
En tout cas, je laisse la population juger. Quand vous descendez dans les quartiers, moi je suis une femme de quartier. Moi je fais les quartiers, je suis une femme de terrain. Donc quand après le meeting, nous on essaie d'avoir le ressentiment de la population, mais c'est un succès. C'est un succès parce qu'on est en démocratie de toutes les façons. On est 6 millions de Centrafricains, on peut pas dire que 6 millions de Centrafricains sont pour le oui. Sinon, on serait dans une république de fiction. Sinon, on serait pas dans la réalité. Donc, c'est normal qu'il y ait des milliers de Centrafricains qui sont derrière leurs leaders politiques et qui disent non à ce projet de référendum et qui disent non à cette nouvelle constitution. C'est tout à fait normal.
Malgré l'interdiction de votre marche.
Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on est, il y a des règles de démocratie. Quand on demande à faire une marche pacifique, je ne vois pas pourquoi le pouvoir a peur. Quand vous avez tous les moyens sécuritaires, les moyens militaires, mais cette peur-là vient d'où? Quand les gens demandent à marcher, à faire une marche pacifique, une marche à main nue, mais comment on peut refuser? Comment on peut refuser une marche? Ça fait partie de la Constitution. C'est presque dans la constitution, ça. C'est les activités de l'opposition démocratique. Mais à chaque fois quand il y a des manifestations, c'est toujours non. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'overdose. Et quand il y a l'overdose, je pense que on ne peut plus s'en tenir à quoi que ce soit.
Vous avez 4 minutes d'avance sur Monsieur Evans Ngamana. Monsieur, vous prenez la parole pour rebondir sur certains points. Vous êtes directeur de campagne, votre passé en tant que prêtre. Voilà, aujourd'hui, tout ce que vous avez fait, Madame considère que vous êtes en train de cautionner la violation du serment du président de la République et aussi la réussite, selon le BRDC, de sa marche pacifique, malgré l'interdiction par le gouvernement.
Bien, je vous remercie, Armand. Je voudrais d'abord, pour que ce débat soit serein et que le peuple qui nous suit en ce moment puisse bénéficier de tout ce que nous disons ici, je voudrais qu'on élève le niveau de débat, parce que je ne voudrais pas qu'on parle du passé des uns et des autres. Madame la ministre évoque ici mon passé de prêtre. Je connais aussi son passé, mais là n'est pas le problème. On est venu édifier le peuple centrafricain sur ce que c'est que le référendum constitutionnel. Donc à ce niveau, je voudrais qu'on élève un peu le niveau de débat. Je crois savoir qu'il est venu avec toute une documentation écrite à l'avance. Peut-être c'est ça qui le conditionne, mais je pense
pour il ma part... Il pour qui? Pour moi?
Oui, parce que je vois que vous lisez des choses ici.
Mais vous avez été
préparé.
En
tant qu'être humain. Donc,
il n'y a pas de souci.
Je vous demande un peu de vous départir de tout ce qui vous a été préparé, que vous êtes en train de lire ici. C'est un débat.
C'est
nous
moi
devons,
qui ai préparé.
Nous devons parler.
Personne ne me l'a préparé.
C'est-à-dire, vous avez eu le thème
moi.
Avant.
Voilà.
C'est ça.
C'est bon.
Mais départissez-vous de tout ce document-là. Ici, c'est un débat intellectuel et nous ne devons pas descendre au niveau des passés des uns et des autres. J'en passe. Maintenant, l'opposition, une partie de l'opposition, parce qu'il faut que les centrafricains qui nous écoutent en ce moment comprennent que l'opposition aujourd'hui est plurielle. Vous parlez de BRDC, mais ce n'est qu'une partie de l'opposition.
Il y a l'UFDO.
L'UFDO est là, qui est pleinement impliqué, engagé dans ce processus en cours. Et si le BRDC, qui est une partie de l'opposition, estime qu'ils doivent dire non pour ce référendum constitutionnel, c'est leur droit le plus absolu. Mais quelle est la meilleure manière de le faire? C'est d'aller aux urnes. Puisque, en l'entendant parler tout à l'heure, elle dit qu'il y a des milliers de centrafricains derrière eux. Mais justement, c'est l'occasion pour aller l'exprimer à travers les urnes, faire ce choix du non. Et le référendum, ce n'est pas forcément pour aller dire oui. Nous avons deux exemples dans le monde. En Tunisie, le référendum constitutionnel a été organisé, le oui a remporté. En Chili, le non a remporté. Mais pourquoi l'opposition, une partie de cette opposition qui s'appelle BRDC, refuse d'aller à ce référendum? J'en connais les raisons et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Maintenant, il dit que la marche est consacrée dans la Constitution, mais aussi l'élection, ou du moins les élections, le référendum, c'est aussi un acte constitutionnel. Vouloir ne pas rentrer dans cette dynamique, ça, c'est aller aussi contre la Constitution. Maintenant, quand on parle de parjure, de manque de serment de la part du chef de l'État, ça c'est des jugements de valeur qui n'ont pas leur place ici. Aujourd'hui, si nous en sommes arrivés à ce référendum constitutionnel, vous avez suivi tout le processus. Ce n'est pas le président de la République qui a demandé la modification ou bien la réécriture de cette constitution. Nous sommes allés au dialogue républicain en mars 2022. Cette question a été posée par le peuple centrafricain. Après, il y a eu des pétitions. Les gens se sont mobilisés à travers les quartiers des villes pour déposer une pétition au niveau de l'Assemblée nationale demandant la réécriture de cette constitution. Après, la question a évolué et le président de la République, devant cette sollicitation pressante du peuple centrafricain, n'a fait que répondre favorablement à cette situation, parce que de tout temps, j'ai toujours dit qu'aucune institution, aucun parti politique, aucun homme d'État n'est au-dessus du peuple souverain. Quelle est cette constitution dans le monde où on ne peut pas changer? C'est aberrant. La constitution est dynamique. Donc, une constitution
est
évolutive. La France a changé sa constitution plus de 20 fois. Les États-Unis n'en parlons pas. Donc, ce n'est pas en RCA aujourd'hui que les gens vont donner pour raison que pourquoi on doit modifier la constitution, etc. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui se battent aujourd'hui contre ce référendum constitutionnel, qui demandent le boycott de ce référendum qui ne va jamais prospérer,
Je sais pourquoi ils le font. Ils ne défendent pas l'intérêt du peuple centrafricain, Armando. Et les raisons, je vais les évoquer
tout à l'heure. On y reviendra. Madame, vous voulez rebondir. Je vois tout à l'heure, vous avez remué la tête. Vous avez 30 secondes, si ça vous va. Comme ça, on va rentrer dans l'autre sujet.
Par rapport à la demande du peuple, c'est vrai qu'on a suivi tout ce processus-là depuis plus d'un an. Mais c'est un processus qui est fait à l'arrache, qui est fait au forceps. On a l'impression que tout est tiré par les cheveux. Il n'y a rien de naturel. Tout est forcé et comme si tout cela obéissait à des ordres et qu'il fallait à tout prix exécuter. Je pose la question de savoir, de connaître l'agenda caché de l'élection de 2025. L'agenda caché. Aujourd'hui, c'est vrai, on est là pour débattre des aspects de la Constitution. J'ai pris des notes justement parce que ça concerne les articles de la Constitution. C'est pour ça que j'ai pris des notes. Mais c'est pas parce que je ne sais pas parler et qu'on m'aurait préparé quelque chose. Mais je rappelle quand même que je suis professeur à l'université depuis 20 ans. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Donc là, on va débattre, bien sûr, de la Constitution. On va débattre du référendum. Mais ce qui est important, ça, tout ça, c'est de l'habillage, tout ça, c'est la forme. Mais le fond, le vrai fond, c'est quoi? Le vrai fond aujourd'hui, c'est que on nous cache ce qu'il y a derrière l'agenda 2025.
Vous l'avez
on
déjà
nous
dit.
Cache, on oui. nous cache ce qui va arriver à la République centrafricaine.
Et ce qui pourrait advenir dans 10 ans, comme vous l'avez dit, on y reviendra dans les détails. Voilà. Vous avez encore une minute, répondez, M. Gamana.
Je vous remercie, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre agenda que l'avenir du peuple centrafricain qui est en train de s'écrire autrement. Et je pense pour ma part qu'il y aura toujours alternance politique dans ce pays. Les élections vont toujours avoir lieu. D'ailleurs, au terme de ce processus en cours-là, nous allons aller aux élections locales. Et une fois de plus, il vous souviendra que dans un passé récent, cette même partie de l'opposition a demandé à ce qu'ils ne puissent pas participer à cette élection. Finalement, on ne sait pas pourquoi ils font la politique. Donc pour nous, il n'y a pas un autre agenda. L'agenda, c'est que le peuple centrafricain écrit et est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire.
Dans le mauvais
et il y aura
sens.
Toujours les élections dans ce
dans
pays.
Dans le mauvais sens.
Que ça, soit, ça, c'est vous qui le dites, c'est votre opinion. Mais voyez les milliers de centrafricains, des millions même, qui vont aller voter oui. Le 30, je vous mets à Paris, ils ne savent pas quoi. C'est le moment pour vous. On vous donne la possibilité aujourd'hui d'aller expliquer au peuple centrafricain pourquoi vous dites non. Or, vous êtes incapable de le faire. Vous restez là, vous dites seulement qu'on va boycotter. Oui, oui. Allez expliquer.
Comment ça qu'on est incapable?
Quand on dit non à quelque chose, il faut donner les raisons. Nous sommes en train de dire oui.
Mais quand on veut organiser des meetings pour expliquer pourquoi le non... Mais c'était interdit. Mais pourquoi vous interdisez? Combien de demandes ont été déposées et combien de demandes ont été refusées?
Dites-moi, madame, finalement, la marche a eu lieu, oui ou non?
Mais c'est parce que on a bravé l'interdiction.
Voilà. Donc,
pourquoi
fait.
Vous interdisez?
Vous l'avez fait.
Répondez à la question.
Voilà.
Pourquoi vous interdisez?
S'il vous plaît,
non,
vous deux.
Hein. Mesures,
le BRDC, une question pour vous, parce qu'on a beaucoup de sujets à débattre aujourd'hui. Le BRDC, on ne battra pas campagne pour le non, mais...
Ils ont commencé à battre campagne hier.
Il a quand même demandé à la population de boycotter ce processus. Madame, si ces derniers temps, le gouvernement n'a cessé d'interdire les actions publiques de l'opposition, peut-on dire que le pouvoir est en train de bâillonner selon ce que... votre leader, M. Delegué l'a dit, ses adversaires, comme disent aussi les leaders du BRDC.
Mais c'est un constat qui est reconnu par tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a rétrécissement de l'espace démocratique en Centrafrique. Il y a rétrécissement des libertés publiques. Aujourd'hui, quand l'opposition démocratique demande à faire des manifestations, la réponse a toujours été non. Mais pourquoi? Non, moi, je me pose la question de savoir pourquoi un pouvoir qui se dit aussi puissant peut avoir peur des gens de l'opposition qui n'ont que leur parole à délivrer aux Centrafricains. Pourquoi ce paradoxe? C'est quand même un paradoxe. On est quand même dans une situation de paradoxe. Quand vous êtes tellement sûr, quand on est sûr de soi, quand on sait que tout ce qu'on est en train d'entreprendre, ça va réussir. Et toutes les façons, nous, au niveau de l'opposition démocratique, on connaît déjà l'issue. On connaît déjà l'issue de ce processus depuis un an. Ce processus a été engagé depuis un an. On connaît l'alpha, on connaît l'oméga. On sait là où on va aboutir. Donc, c'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Donc, tout ce qui est en train de se faire actuellement, c'est juste de l'habillage, c'est juste du maquillage, c'est juste une mise en forme pour montrer qu'on va quand même à des élections. Mais on sait que ça va être un oui, c'est tout. Mais comme on connaît les résultats à l'avance, pourquoi s'associer
à quelque chose d'où on connaît les résultats à l'avance. Parce que du moment où, durant tout ce processus, le processus déjà n'a pas été consensuel, le processus n'a pas été démocratique, on a privé l'opposition démocratique de faire des meetings, de s'adresser au peuple centrafricain. Mais comment à la fin on demande à cette même opposition aller aux élections? Mais quand même. Donc moi je me dis que quelque part quand même, il y a de la peur quelque part au niveau du pouvoir, parce que quand on n'a pas peur et que quand on est assez sûr de soi, on laisse les autres. On laisse les autres qui n'ont rien, qui ont que la parole pour délivrer aux Centrafricains. On les laisse tranquillement délivrer leur parole en sachant bien que on connaît déjà l'issue. Pourquoi entraver les activités de l'opposition?
Deux minutes aussi pour vous, monsieur Evariste Ngamana, pour répondre sur le bâillonnement de ses adversaires par le président de la République.
Je pense qu'il n'en a pas question dans cette République où nous vivons en ce moment. C'est ce qu'il est en train de dire n'engage qu'elle-même. Parce que pour moi, aujourd'hui, je mets quiconque à défi de me dire quel est l'homme politique de l'opposition qui est aujourd'hui détenu en prison. Quelle est cette liberté d'expression qui est aujourd'hui phagocytée au niveau du pays? Ils ont eu à faire des meetings à Yucatex. Ils ont eu à faire des meetings à Bimbo, un peu partout.
Tout ça, c'était interdit. Bimbo, ça a été interdit.
Mais Yucatex n'a pas été interdit.
S'il vous plaît, notez, vous allez répondre.
Madame, quand je parle, ayez l'amabilité de rester tranquille. Oui, vous avez votre temps de parole. Alors, pour moi, je pense que tout ça, c'est du mensonge délibéré parce que aujourd'hui l'opposition est en train de jouer son rôle. Et la meilleure manière d'ailleurs qui est offerte à l'opposition de s'exprimer, c'est cette campagne référendaire. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On dit non, on est bâillonné et en même temps on dit non, il faut boycotter, etc. Donc il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc pour moi, il y a l'expression démocratique qui est là et je pense que la campagne qui a démarré aujourd'hui, l'opposition peut naturellement battre campagne pour expliquer pourquoi il dit non. Et je me réjouis. Tout à l'heure, quand j'ai suivi madame qui disait qu'il sait que le vote sera oui. C'est une bonne chose parce qu'il sait que le peuple se mobilise effectivement pour le oui. Et si eux, de l'opposition, de cette partie de l'opposition, veulent battre campagne pour le non, ils n'ont qu'à le battre. Et au moment venu, c'est-à-dire le 30 juillet, chacun ira s'exprimer. Et c'est le peuple souverain qui va trancher. Il va trancher à travers les urnes pour que nous sachions après qui a dit oui, qui a dit non. Et en ce moment-là, c'est le peuple centrafricain qui gagne. Pour moi, il est hors de question de dire ici que l'opposition est phagocytée, muselée, etc. Je n'en vois pas. Si des marches, si des mesures conservatoires ont été prises parce que nous gérons quand même l'État, nous pensons que il y en a qui ont aujourd'hui en tête de vouloir aller proférer des menaces ou bien chercher à amener des troubles pendant ce processus-là. Mais je pense, pour ma part, que le pouvoir doit jouer aussi son rôle de garant de la sécurité du peuple centrafricain et tout doit être réglementé. Donc, aujourd'hui, l'opposition est en droit d'aller en campagne puisque la campagne est déjà ouverte pour aller expliquer au peuple centrafricain pourquoi ils disent non. Nous aussi, nous allons dire oui et c'est le jeu démocratique. Parce qu'au final, c'est l'intérêt du peuple qui prime.
Monsieur, je reste avec vous pour ouvrir cette nouvelle page.
Je vais répondre, s'il vous plaît.
On va évoluer, s'il vous plaît, madame.
Non, parce qu'après, je vais perdre le fil de mes idées.
Mais vous avez 30 secondes.
Vous allez répondre comme ça.
Voilà. Donc, je suis très, très mal à l'aise. Je suis très, très mal à l'aise d'écouter que l'opposition démocratique a peur d'aller aux élections, a peur d'aller au référendum.
Oui,
je suis très mal à l'aise d'entendre dire ça, parce que quand dans votre position, vous avez
peur parce que le peuple ne vous écoute
là,
plus.
Et là, vous êtes en train de me couper, vous faites la remarque et vous faites la même chose.
Allez-y, on va le temps, s'il vous plaît.
Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes vraiment mal à l'aise de parler de l'opposition qui refuse d'aller aux élections, d'autant plus que vous connaissez très bien les conditions dans lesquelles les élections de 2016 se sont déroulées. Vous connaissez très bien comment le président de la République est arrivé au pouvoir. Vous connaissez très bien et vous faites fi de ça pour aujourd'hui monter sur vos grands chevaux pour accuser l'opposition et de dire que voilà, vous voulez pas aller aux élections. En 2016, je sais pas exactement où est-ce que vous étiez, mais en 2016, vous savez ce qui s'est passé. Et en 2021, vous savez exactement ce qui s'est passé. Donc, ayez un minimum de modestie. quand vous vous adressez à l'opposition démocratique. Ça, c'est vraiment, c'est un devoir d'humilité.
Une minute.
C'est vraiment un devoir d'humilité d'être vraiment dans une posture, de ne pas être dans cette posture-là, mais d'être dans une posture vraiment
d'humilité. Je vous ai donné une minute, 30 secondes, comme, rebondissez.
Oui, je rebondis. Ça me fait sourire un peu quand il parle de, je vais lui rafraîchir la mémoire qu'en 2020, 2021, l'opposition qui se dit aujourd'hui opposition démocratique était de connivence avec la CPC. Et je pèse mes mots. Pourquoi? Quand François Bozizé devait entrer en sa rébellion, elle sait ce qui s'est passé. Celui qui se dit aujourd'hui leader de l'opposition démocratique a été rencontré Bozizé à Bossangwa et immédiatement s'est déclenché l'affaire de CPC. C'était pour remettre en cause tout le processus qui devait avoir lieu. Donc aujourd'hui, cette opposition-là est mal placée de faire de leçons à qui que ce soit. Maintenant, j'en passe.
Je reviens. Revenez sur 2016.
2016, on était dans
un contexte.
Ça s'est passé comment?
Comment? Qui a gagné les élections en 2016?
C'est toi, Dira, qui a gagné les élections.
D'accord.
Et ça a été reconnu par Dole Guélé. On ne va pas faire de débat à ce niveau.
Mais c'est même pas question de débat, c'est que il a joué le politiquement correct. C'est ce qu'on dit.
Il a joué le politiquement correct.
Mais en 2020,
il est allé.
Vous rentrez dans le chrono
de M.
Gamana. Vous savez exactement ce qui s'est passé en 2016. Donc, je disais.
Madame, vous avez posé la question.
Je disais tout simplement qu'il faut avoir un peu plus de modestie et d'humilité quand vous parlez de l'opposition démocratique. S'il vous plaît.
Et
je ne peux pas laisser passer ce qu'il vient de dire que voilà, le leader de l'opposition, Anicé Georges Dolo Guélé, il a signé un accord électoral avec le KNK.
C'est faux, madame.
C'est un accord électoral.
Vous étiez là.
C'est un accord électoral. Nous sortons de ce projet. Voilà.
Tout le monde voulait signer.
Même le PMCU voulait signer avec le KNK.
Madame.
Et ça n'a pas été possible.
Madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien respecter la police du débat? Est-ce que vous voudrez bien respecter la police du débat si vous vous avez demandé de laisser monsieur commencer? Comme ça, ça vous permettra de prendre l'autre. Je reprends votre chrono qui vous reste en secondes.
Merci, merci. Je pense que nous devons être sereins autour de ce plateau-là pour débattre sereinement. Et le peuple qui nous suit en ce moment a besoin d'écouter vraiment de bonnes paroles qui sortent de notre bouche ici. Je ne voudrais pas trop m'attarder sur cet aspect-là, mais je relève tout de moins que nous devons débattre de manière sereine ici. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus qui est déjà lancé, qui est irréversible, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos tout à l'heure. Et je pense pour ma part qu'il n'est pas tard pour l'opposition qui a opté pour le nom de venir battre campagne. Et c'est le 30 juillet qu'on va voir qui a gagné et qui a perdu. Donc c'est un jeu démocratique. Le reste, ce ne sont que des considérations d'ordre subjectif. Et le peuple centrafricain doit aujourd'hui savoir ce qui est bien pour son devenir.
Merci, 30
secondes.
Et cette
constitution-là est la bienvenue.
30 secondes. Oui, la campagne référendaire pour le changement de la nouvelle constitution démarre aujourd'hui. Dans ce document, plusieurs nouveaux points y sont inscrits, mais celui qui suscite des débats, c'est l'article 65 à la page 27. Le verrou de la limitation de mandat est désormais sauté. En tant que rédacteur en chef, M. Gamana, de ce projet de la nouvelle constitution, quelle est la motivation principale de cet article?
La motivation, elle est simple, c'est la stabilité des institutions. Et je pense que la République centrafricaine n'est pas le premier pays au monde à vouloir mettre en place ce dispositif d'ordre constitutionnel. Vous prenez tous les États de la sous-région, pour ne prendre que ces exemples-là, tous les pays, que ce soit le Cameroun, le Gabon, le Congo, etc., il n'y a pas de limitation de mandat. Même dans les pays de grandes démocraties, comme on prétend le dire. En Allemagne, par exemple, il n'y a pas de limitation de mandat. Récemment, en France, c'est dans les années, dans les dernières années qu'il y a eu limitation de mandat. Donc, on ne peut pas vouloir dire que le fait de sauter le verrou, etc., c'est une manière de consacrer éternellement, toi diras au pouvoir. Il y aura toujours alternance démocratique. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il y ait la stabilité. D'ailleurs, qu'est-ce que la démocratie? On définit la démocratie comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Vouloir limiter le mandat, c'est aller aussi contre la volonté du peuple. C'est une forme de dictature. Et si le peuple estime que tel ou tel leader fait bien son travail et qu'il doit poursuivre, il appartient au peuple de décider pendant les élections. Mais si le peuple estime aussi que la personne qui gouverne en ce moment ne travaille pas bien, il appartient aussi à ce peuple de décider. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec, de toute façon, la loi a un caractère impersonnel. La loi est faite pour l'avenir. Donc, aujourd'hui, le fait de lever ce verrou donne la possibilité à notre pays de créer les conditions d'une stabilité institutionnelle. Vous savez que la présidence de la République, c'est le peuple qui confère le pouvoir au président à travers les élections. On ne nomme pas un président. Donc, l'alternance politique va toujours se jouer dans ce pays. Voilà, c'est ce que je peux vous dire.
Voilà, madame, sur la limitation de mandat, hein, le verrou est sauté cette fois-ci. On passe même maintenant de quinquennat au septennat. Et quelle est donc la réaction de votre organisation?
On nous disait il y a quelques mois qu'il y avait des dispositions dans l'ancienne constitution qui empêchaient de développer le pays. C'était les arguments qui étaient prônés auprès de la population. Donc moi, j'ai décortiqué. Vous m'avez vu, c'est vrai, je suis venue avec des notes, mais parce que j'ai décortiqué les articles de la Constitution pour faire la comparaison de l'ancienne Constitution avec le nouveau projet de Constitution. Je peux pas, j'ai pas une mémoire d'ordinateur pour avoir ça en tête. C'est pour ça que j'ai bien pris les notes. Donc moi, en parcourant cette Constitution, j'ai vu que tout ce qui a été modifié n'est pas de nature à développer le pays. Au contraire, les arguments, c'était des arguments fallacieux. Et aujourd'hui, cette nouvelle constitution, c'est la traduction même d'un enjeu de pouvoir politique. Quand vous parcourez la nouvelle constitution, eh bien, tout ce qui a été modifié, c'est fait, vous venez à juste titre de le dire, de préserver la stabilité des institutions. Parce que quand on va entrer dans les détails, Déjà par rapport à la présidence de la République, il y a ce verrou qui a été sauté de limitation des mandats. Donc, il n'y a plus de limitation de mandat. Un président peut rester à vie. Et deuxièmement, le mandat est passé de 5 ans à 7 ans. Donc là, déjà ça concerne la présidence de la République. Donc, tout ce qui a été modifié dans cette constitution, ça n'a pas d'enjeu de développement du pays, ça n'a pas d'enjeu du bien-être de la population, comme ça a été dit auprès de la population pour justifier la modification de cette constitution. Au contraire, les enjeux aujourd'hui dans cette constitution, c'est des enjeux purement politiques, purement de pouvoir. Et le premier vice-président de l'Assemblée vient de le dire que c'est pour conforter les institutions dans leur travail. Parce que quand vous voyez au niveau de la présidence de la République, le mandat est passé de 5 à 7 ans. Au niveau du Conseil constitutionnel, parce que avant c'était la Cour constitutionnelle, aujourd'hui on nous parle de Conseil constitutionnel qui, dont le mandat est de 9 ans. Le mandat est de 9 ans et avec 11 membres qui sont représentés. Mais il n'y a pas de définition du quota des femmes dans cette nouvelle constitution en ce qui concerne les membres du Conseil constitutionnel. Donc 9 ans. Et ce qui est plus grave encore, dans les membres du Conseil constitutionnel, dans l'ancienne constitution, il est dit que...
Dans la constitution actuelle. Hein.
Non, dans l'ancienne constitution...
Puisqu'on n'a pas encore voté
la constitution. La constitution est encore en vigueur.
Oui, dans la constitution de 2016, il est dit que le président de la République doit désigner un membre de la Cour constitutionnelle et le président de l'Assemblée nationale doit désigner un membre.
Et le président
du Sénat. Dans le projet de nouvelle constitution, le président de la République doit désigner 3 membres et le président de l'Assemblée nationale doit désigner 3 membres. Ça fait 6 membres sur les 11 membres qui doivent constituer le Conseil constitutionnel. Donc 6 membres sur 5, ça constitue déjà ce qu'on appelle une majorité de blocage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les institutions n'ont plus leur totale indépendance. Donc les institutions sont aujourd'hui à la solde du pouvoir. Donc ça veut dire que cette nouvelle constitution est là pour renforcer les pouvoirs du président de la République. Et il y a un autre poste qui a été créé, le poste de vice-président, sans que les détails ne soient donnés. Donc il y a un poste de vice-président.
Non, le détail c'est que pour le poste de vice-président, c'est le président de la République qui nomme.
Oui.
Comme il va nommer le premier ministre.
Sur quels critères? Sur quel critère il va nommer? Oui, il nomme. C'est le président de la République qui a cette attribution de nommer le vice-président de la République. Mais sur la base de quoi? Sur la base de quels critères? Hein? Sur la base de quels critères? Ça, on ne connaît pas. Ça n'a pas été dit. Alors nous, on se pose la question. Est-ce que, parce qu'il est dit que le vice-président doit
remplacer le président en cas d'empêchement définitif, le vice-président devient le président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, si le président de la République il y a un empêchement définitif, ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale ne pourra pas monter pour être président de la République. C'est ça que ça veut dire. Donc nous, on essaie de faire aussi des analyses politiques par rapport à cette constitution-là. Et on se dit, l'objectif de la création de ce poste de vice-présidence, soit c'est pour écarter définitivement l'actuel président de l'Assemblée nationale, mais comme c'est le seul président de la République peut nommer le vice-président de la République, soit c'est pour également le promouvoir. Et donc voilà en fait l'analyse que nous on fait aujourd'hui. Ça, c'est juste quelques analyses, mais je reviendrai sur d'autres aspects.
Monsieur Ngamana, sur la caporalisation du pouvoir par le président de la République dans ce projet de la nouvelle constitution, comme a dit
madame. Je ne voudrais même pas utiliser ce mot caporalisation. Je proscris même ça de ma bouche parce que. D'ailleurs, je voudrais tout simplement dire que comparaison n'est pas raison, puisque tout à l'heure, madame disait qu'elle fait une comparaison entre la constitution du 30 mars 2016 et le projet de constitution en cours. Bon, et elle disait aussi qu'elle a parcouru cette constitution, mais je pense qu'elle n'a pas totalement parcouru cette constitution. Prenons seulement le préambule. Si vous avez bien lu, madame, et je le lis pour vous si vous ne l'avez pas lu.
Madame Gounebana.
Madame Gounebana, si vous voulez. Si vous n'avez pas bien lu, madame Gounebana,
vous ne connaissez pas le nom de la personne, vous l'appelez madame. Mais quand vous connaissez le nom, vous dites madame Gounebana.
Là n'est pas l'important, je m'en excuse, mais madame Gounebana, si vous voulez. Alors. Le préambule. Quand vous prenez le préambule, jamais dans les constitutions de ce pays qui se sont succédées, on a vu cette affirmation de l'État, de l'indépendance même du pays. C'est déjà d'un. Deuxièmement, quand vous prenez le préambule, au cœur même de cette constitution, nous avons placé l'homme centrafricain. J'ai répondu tout à l'heure parce que vous m'avez posé la question sur le verrou, la durée du mandat, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça qui est consacré dans cette constitution. Je voulais vous rafraîchir la mémoire que si vous prenez, s'agissant du développement du pays, qu'est-ce qui fait le développement? Ce sont les richesses naturelles, sous-sol, sol, etc. Dans cette constitution, nous avons fortement affirmé que les richesses sous-sol, sol de la République appartient au peuple centrafricain. Vous avez déjà vu ça dans une constitution dans ce pays? Non. Deuxièmement, il y a de la place pour les femmes, pour les jeunes, pour les handicapés. Jamais on n'a vu ça dans une constitution dans ce pays. Vous avez évoqué la question de quotas, mais je vous rappelle simplement, en tant que juriste, que dans une constitution, on ne met pas tout. La constitution définit les grandes lignes pour la gestion du pays. Après, il y aura ce qu'on appelle les lois ordinaires ou les lois organiques qui vont après définir comment organiser le conseil constitutionnel, le fonctionnement, etc. Donc au moment de la mise en place de ces différentes lois-là, vous aurez la réponse à cette question. Maintenant, vous parlez de développement du pays. Dans cette constitution aussi, il a été clairement énoncé que désormais, on ne peut plus vendre les terrains aux étrangers. Donc, vous voyez, la constitution.
Article?
Madame, allez lire. Vous avez dit que vous avez lu, non?
Oui, j'ai lu.
Oui.
Mais j'ai pas vu ça.
J'ai pas vous aurez le temps de voir ça. Je vous dirai ça tout à l'heure. Puisque j'ai pas le texte sous la main et puis je n'ai pas en tête. Vous allez lire. Donc, il est fait interdiction de vendre le terrain aux étrangers. Ce n'est pas la première fois. La Centrafrique n'est pas le premier pays au monde à le faire. Vous savez, dès lors que le peuple n'est pas protégé, ces richesses ne sont pas protégées, le sol n'est pas protégé, comment vous pouvez espérer le développement? Alors, donc, les autres détails, je pense, qui sont contenus dans cette constitution, au cours du débat, quand on va évoluer, j'aurai à mettre à la disposition du peuple centrafricain qui nous suit en ce moment. Mais je reviens tout simplement pour dire que, quand j'ai répondu à la question de lever de verrou de mandat, c'est parce que la question a été posée par Armand tout à l'heure, mais je n'ai pas développé
tous les aspects ou toutes les innovations contenues dans cette constitution. C'est pourquoi je me permets maintenant...
Oui, on ne va pas brosser tout. C'est pourquoi il faut rester sur ce que nous avons préparé comme question. Sinon, on ne va pas parcourir tout le projet de la constitution.
Ça fait 186 articles.
C'est beaucoup. Oui, madame, vous voulez rebondir quelques secondes parce que vous avez...
Je voulais juste rebondir sur...
30 secondes, parce que vous êtes en retard.
L'honorable président, il a dit, par rapport à l'interdiction de vendre des terres à des étrangers, mais il y a une contradiction quand même entre la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale sur la tokenisation et puis maintenant les dispositions que vous retrouvez dans le projet de nouvelle constitution. C'est comme si ça a été fait à dessein de faire d'abord de disséquer les deux choses. Là, vous dites que c'est interdit de vendre des terrains à l'étranger. Mais quand on se réfère à la loi qui a été passée avant sur la tokenisation, qu'est-ce que ça dit cette loi? Eh bien, cette loi, au contraire, fait la promotion de la vente des ressources naturelles.
Laissez-moi terminer. Je vais vous expliquer après. Ouais, allez-y.
Voilà.
C'est une mauvaise
Calmez-vous. Honorable président. Non, non, vous m'avez fait la remarque tout à l'heure.
Allez-y. J'aurai le temps de vous recadrer sur ce.
Vous m'avez fait la remarque tout à l'heure. Pourquoi avoir disséqué? Pourquoi ne pas avoir attendu de tout mettre dans cette constitution, de faire d'abord passer la constitution et maintenant au niveau des lois qui doivent décliner de cette constitution, on peut retrouver maintenant la loi sur la tokenisation. Pourquoi les choses ont été faites à l'envers? Pourquoi cet anachronisme que de faire passer d'abord la loi sur la tokenisation et maintenant de revenir pour dire que voilà dans la nouvelle constitution.
Vous avez posé beaucoup de questions.
Dans le projet de nouvelle constitution, on peut pas vendre de terrain alors que sur la loi sur la tokenisation, tout est déjà vendu.
Justement, c'est cette explication fautive que vous donnez au peuple centre. La tokenisation concerne les investissements, madame.
De quoi?
Les investissements.
De quoi?
Mais les investissements de tout genre. Donc
des ressources naturelles.
Des ressources naturelles, mais ça veut pas dire qu'on va s'en approprier de manière définitive.
Le titre.
C'est ça.
Tokenisation des ressources naturelles. Je suis calme. Je parle calmement, honorable.
Donnez-moi le temps de...
Allez-y.
Voilà.
C'est
mon droit.
C'est votre droit. Voilà. Je vous l'accorde, ce droit-là.
Et je voudrais vous rappeler que les deux textes ne sont pas liés. On ne peut pas dire que pourquoi ne pas attendre, etc. Au contraire, toutes les lois doivent se conformer à une constitution. Ce n'est pas l'inverse. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, à l'avenir, une loi reste une loi, ça peut repartir devant l'Assemblée nationale, etc. Mais là n'est pas le débat. Nous sommes sur la Constitution.
Non.
Vous avez dit tout à l'heure...
J'ai posé des questions,
vous avez,
même, par rapport à la tokenisation.
Mais j'ai répondu. J'ai répondu à votre question.
Je ne suis pas satisfait.
Nous sommes en train d'avancer. Vous n'allez pas...
Je ne suis pas satisfait.
Ce n'est pas vous qui posez les questions ici.
Malheureusement.
Le débat n'est pas sur la tokenisation.
Je ne peux pas vous répondre aussi, madame, sur la tokenisation.
Voilà. Donc, je reviens sur la Constitution. Il n'y a pas meilleure Constitution que celle écrite aujourd'hui par des experts centrafricains.
Vous
le savez. L'histoire de ce pays, toutes les constitutions que nous avons eues a été influencée un peu de l'extérieur. Vous le savez. Aujourd'hui, je puis vous rassurer que cette constitution a été écrite par vos frères et sœurs centrafricains. Qu'est-ce qu'on a pris comme élément de base? Premièrement, ce sont les foras qui sont tenus ici à Bangui. Le dernier en date, c'est le dialogue républicain. Deuxièmement, nous avons tenu compte des aspirations profondes du peuple qui étaient exprimées à travers les mémorandums et les pétitions.
Et le forum de Bangui?
Le forum de Bangui y compris, bien sûr. Bien sûr. J'ai parlé des foras, ça dit... j'ai dit le dernier en date, apparemment vous ne me suivez pas. Vous êtes un peu distrait. Donc, c'est pour vous dire que cette constitution est l'émanation de la volonté populaire. Et le peuple souverain va s'exprimer à travers les urnes le 30 parce que ce que lui, il a voulu, a été consigné, consacré dans cette constitution.
Monsieur Ngamana, la question de la centrafricanité est l'un des points qui anime le débat en ce moment en milieu politique. Vous dites que ce dispositif vise à écarter d'abord Madame Gounebana, votre leader. C'est ce que vous avez dit sur notre plateau la fois dernière à Nice-Georges de Leguilé.
La question est posée.
Non, d'abord à vous. Ou bien les binationaux, il faut préciser, ne seront plus éligibles. Et pour vous, ce dispositif, dans le projet de la nouvelle constitution, vise particulièrement votre leader.
Le problème, c'est que quand on rédige une constitution, c'est pas par rapport à une personne.
c'est pas par rapport à deux, trois ou quatre personnes. Les leaders de l'opposition démocratique qui ont la double nationalité, peut-être sont moins de 10. Mais est-ce qu'on peut rédiger, on peut se permettre de rédiger une constitution juste, c'est-à-dire sacrifier la vie, l'avenir peut-être politique des milliers de binationaux uniquement pour moins de 10 personnes? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable? La République, ça va au-delà des personnes. Les gens qui sont là aujourd'hui, nous qui sommes là aujourd'hui, on est là pour servir la République. On n'est pas là pour asservir la République. Et que tout ce qu'on doit faire, ça ne doit pas se rapporter à des personnes. Ça doit se rapporter à l'avenir de la République. Donc moi, je ne peux pas comprendre parce que nous, on a eu cette lecture-là que je vous ai parlé tout à l'heure des enjeux du pouvoir par rapport à cette constitution-là et que quand on pose le problème de binationalité, c'est vrai, c'est pour écarter les poids lourds de l'opposition démocratique. Mais un pays, ça va au-delà des personnes. Ça va au-delà des personnes. Ça va au-delà de la personne de M. Anissé Georges de Loguélé. Ça va au-delà de la personne de M. Mekassoua. Ça va au-delà de la personne de Jean-Serge Bokassa. Ça va au-delà de ces personnes-là. Il n'y a pas que eux qui ont la double nationalité. Mais il y a des milliers d'enfants nés à l'extérieur, nés à l'étranger depuis deux, trois générations qui aujourd'hui peuvent apporter leur contribution au redressement, au relèvement ou à l'émergence de ce pays. Mais vous les écartez de facto juste parce que vous ramenez tout à votre petite personne.
Mais est-ce que dans ce projet, on n'a pas dit que tous ceux qui sont des binationaux ne seront plus des Centrafricains, mais ne vont pas être candidats à l'élection présidentielle?
Mais c'est justement, c'est cette précision, je suis en train de dire exactement la même chose, Armando. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, tous les binationaux ne peuvent plus accéder à des postes de responsabilité civile et militaire en Centrafrique. Ça veut dire qu'ils n'auront jamais pouvoir de décision pour décider de l'avenir du pays, de l'avenir des Centrafricains. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça veut dire que ramener le problème de binationaux juste pour écarter quelques adversaires politiques, je trouve que c'est extrêmement dangereux.
Et donc, pour vous, cette question vise seulement quelques leaders de l'opposition, mais le projet n'a pas pris en compte tous les Centrafricains qui sont des binationaux, c'est ce que vous voulez dire?
Ben non, pas du tout, parce que aujourd'hui, dans le domaine du sport, on est bien content que un Geoffrey Kondobia vienne jouer pour faire gagner la République centrafricaine, alors qu'il est binational. Il est binational. Mais ça veut dire que c'est un débat qui n'a pas son sens du tout. C'est un débat. L'expérience a été vécue en Côte d'Ivoire avec la notion d'ivoirité. On sait qu'aujourd'hui, les gens continuent de subir les conséquences de ce problème d'ivoirité. On fait comme si on invente la roue, alors que la roue a été inventée depuis. Au lieu de s'inspirer des exemples qui se sont passés ailleurs et d'essayer d'améliorer, nous, on refait exactement des choses comme si c'est une nouveauté. Comme si c'est une nouveauté. Hein? Vous voyez?
Monsieur Valles Ngamana, la question de centrafricanité, voilà, disqualifier les poids lourds de l'opposition aussi, vous avez écouté madame, ça va au-delà de cette pensée qui est inscrite dans le projet de la nouvelle constitution. Est-ce que cela aussi va écarter bien d'autres centrafricains qui sont des binationaux, comme les sportifs, comme les musiciens, des artistes, etc.?
Bien, je pense qu'on doit faire d'abord un choix de vocable. Il s'agit ici de la question de binationalité et non de centrafricanité. Comme Madame Gounebana l'a dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec la question d'ivoirité, etc. Il s'agit ici de la binationalité, où quelqu'un qui a la double nationalité ne peut plus prétendre à être président de la République. La présidence de la République, c'est la très haute fonction de l'État. Il faut qu'on se comprenne à ce niveau. Et on n'a pas à l'étaler aux autres fonctions, etc. Parce que, pourquoi je dis cela? D'abord, je rappelle ce que j'avais dit tout à l'heure, que la loi a un caractère impersonnel et la loi est faite pour l'avenir. C'est le cas de ce projet de constitution qui ne vise personne. Et je me réjouis. Vous voyez, maintenant le peuple centrafricain qui nous suit en ce moment est en train de comprendre pourquoi ceux-là, quand je le disais au début, pourquoi le BRDC, la plupart des leaders de BRDC sont en train de se battre contre ce projet. C'est parce que ils se sentent effectivement concernés.
Ce n'est pas dans l'intérêt du peuple centrafricain.
Ce ne sont pas vos ennemis.
Elle-même,
est-ce que ce sont vos ennemis?
Oui, 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 notez, après vous pouvez parler.
Vous parlez avec mépris.
Vous me comprenez.
S'il vous plaît, madame, pour la sérénité du débat, prenez note, je vous en prie. Vous allez
répondre. Je me réjouis du fait que madame Gounebana elle-même s'est mise à citer quelques exemples ici. Vous prenez Anissé Georges Deleguélé, qui est le président de son parti. Il est de nationalité française, de nationalité centrafricaine.
Au moins, c'est connu.
Oui, mais maintenant, c'est connu.
Mais le président de la République...
Il n'en a pas, je vous le dis.
Mais
vous pouvez vérifier.
Je vais revenir sur cet article qui concerne la nationalité.
Monsieur,
on va rentrer dans les détails.
Madame, vous voudrez
allez-y.
Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un problème qui doit être réglé définitivement. Et la République centrafricaine n'est pas le premier pays à le faire.
Mais dans le cas contraire,
vous prenez le Cameroun. Vous prenez le Cameroun.
S'il vous plaît.
Même aux États-Unis, pays de grande démocratie.
Comparaison n'est pas raison.
Mais justement, c'est pour vous dire qu'on ne vise personne à travers ce texte-là. Donc, c'est, comme je vous ai dit, c'est de très hautes fonctions de l'État. Et dès lors que quelqu'un a la double nationalité, ça va poser un problème de conflit d'intérêts.
Mais si aujourd'hui, celui qui veut être candidat à la présidentielle renonce parce qu'il est centrafricain d'origine.
C'est un problème de choix. Il faut faire le choix.
Et s'il renonce, il sera éligible.
Oui, s'il veut renoncer, d'accord, que ça soit clair. Mais il ne peut pas être centrafricain et français, centrafricain et américain pour prétendre à haute fonction de l'État. Nous savons tous que dès lors qu'il va se poser un problème d'intérêt, il y aura conflit d'intérêt. Vous allez aller de quel côté? Vous êtes centrafricain, vous êtes français, vous êtes centrafricain, vous êtes américain, vous êtes centrafricain, vous êtes, je ne sais pas, guinéen. Mais quand il va se poser un problème, vous allez faire votre choix de quel côté? C'est ce problème-là, madame, que nous voulons...
Madame
Gounebana, si vous voulez bien, que nous voulons régler à travers cette constitution. Ça ne vise aucunement personne.
Madame Gounebana...
Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui a la double nationalité ne pourra plus prétendre à cette très haute fonction de l'État. Maintenant, vous allez voir l'article 99, qui concerne les élections législatives. On a dit, doit être de nationalité centrafricaine tout court. Mais l'article 67... sur les critères d'éligibilité à l'élection présidentielle, ne doit être que de nationalité centrafricaine et n'avoir que la seule nationalité centrafricaine. Vous voulez être candidat, c'est la seule condition, c'est tout. Parce qu'on ne va pas, à ce niveau de haute fonction, de très haute fonction de l'État, mettre des gens qui sont mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'ils vont jouer dans les deux camps et ça va mettre en péril, même en danger,
monsieur,
l'État centrafricain.
Voilà, madame Gounebana, vous avez quelques secondes. On va écouter l'extrait du président de la République, si vous voulez prendre 30 secondes pour répondre.
Oui, 30 secondes, c'était juste pour revenir sur cette notion de centrafricain d'origine. Qu'est-ce qu'il est dit à l'article 10 du nouveau texte? Que est centrafricain d'origine toute personne dont les parents sont eux-mêmes centrafricains d'origine.
C'est clair, vous avez quelque chose à...
Sont eux-mêmes.
Oui.
Dont les parents sont eux-mêmes centrafricains d'origine. Oui. Ça veut dire qu'être centrafricain, dont les parents sont centrafricains de père et de mère.
Et lisez l'autre article
de père et de mère.
L'autre article rappelle que la nationalité centrafricaine est exclusive.
Oui, mais ça c'est ça. On parle de la même chose.
Voilà.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour affirmer son origine centrafricaine, il faudrait produire les actes de naissance de ses parents et de ses grands-parents. De ses parents et de ses grands-parents. Donc, ça veut dire que mon père et ma mère doivent être centrafricains. Donc, nous demandons aujourd'hui que les actes de naissance des futurs candidats à la présidentielle, que les actes de naissance des parents et des grands-parents soient produits et publiés, tout simplement.
Monsieur.
Mais là, ce n'est pas le débat, je pense que...
Ce n'est pas le débat, on est en plein dans le débat.
Non, je vous
rappelle... On est en plein dans le débat. Moi, c'est l'article...
Oui, je
vous dis l'article 10 du nouveau projet.
Vous l'avez déjà dit.
Vous avez déjà dit, madame.
Voilà.
Je vous dis, la nationalité étant exclusive, au moment venu, il y a ce qu'on appelle les actes réglementaires qui vont parler de tout ça. Vous mettez les charrues avant les bœufs. Si vous voulez, au moment venu, ça, chacun va produire. Mais sachez que la binationalité n'est plus... éligible à l'élection présidentielle.
Ça, il n'y a pas de problème.
Voilà. Au moment
ça, il n'y a pas de problème.
Au moment,
parce
la
que...
question que vous posez ne se pose pas.
Ça,
dès
pas...
lors que c'est affirmé dans la Constitution, ça va être mis en œuvre au moment venu.
Il n'y a pas de problème. Tout le monde va accepter. Tout le monde va accepter.
Oui, tout le monde va accepter.
Tout le monde va accepter. Sauf qu'il faut éviter d'ouvrir la boîte de Pandore.
Quelle boîte de Pandore?
Madame Nathalie Constance Gounebana, monsieur Evariste Ngamana, merci beaucoup à vous. C'est la fin d'ailleurs de ce débat politique. On ne va pas parcourir tous les dispositifs contre contenu dans ce projet de la nouvelle constitution, c'est qu'il est sûr, on aura le temps pour en débattre un à un et pour épulcher certainement certaines grandes lignes. Je vous dis merci beaucoup, à la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur www.radiondekeluka.org. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon week-end et surtout prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois. Au revoir.